Je ne sais pas si tu aimes les mathématiques, la construction du spectacle, il y a une espèce de logique implacable. J'ai l'impression que tu aimes bien, c'est peut-être un point commun, mais les tiroirs en fait. Et
J'adore les tiroirs.
dans les tiroirs. Ben voilà, super. Et dans chaque tiroir, en fait, il y a des boîtes.
Et j'adore les boîtes.
Et les boîtes, tu sais, rentrent dans les boîtes.
Ouais.
Ça, c'est extraordinaire. Surtout quand on découvre une boîte, tu sais, à laquelle on ne s'attendait pas, par exemple, et qui est vraiment à sa place et qui donne du sens aux autres boîtes, quoi.
Ouais. Ah ouais, bah je...
On est les seuls peut-être à comprendre ce qu'on est en train de dire.
Alors,
mais...
bah, j'ai écrit une histoire à tiroir, ça
ouais.
s'appelle. C'est une histoire où on arrive, on se fait embarquer dans un voyage, on comprend pas trop où on est. Hein. On est là, ouh, c'est chelou, c'est étrange. En même temps, ouf, ça transporte. Donc on est un peu comme sur un bateau dont on connaîtrait pas la destination, quoi. On sait d'où on est parti, voilà. Et après, on découvre qu'il y a une mouette en haut du pont, que l'ancre a bien été relevée et qu'il y a des dauphins qui tournent autour du bateau, mais on sait pas où on va. Et en fait, ce puzzle se construit au fur et à mesure. Et il se construit d'abord sur le plan émotionnel avant de passer par le plan intellectuel, parce que c'est ça qu'on a voulu fabriquer avec le son. C'est de proposer une compréhension non, comment dire, non intellectualisée, d'abord émotionnelle. Donc on passe un peu par des couleurs sonores qui nous embarquent, et c'est un peu comme si on plongeait dans un tableau, en fait, sans l'intellectualiser, et qu'on ressentait quelque chose. Et puis après, en s'éloignant du tableau, donc en se rapprochant de la fin, on se rend compte de ce qu'il y a de peint dessus. C'est ça, des histoires de tiroirs.
Oui, exactement, tout prend sens. Bon, on l'a évoqué, donc Esther, c'est un fantôme. Toi déjà, est-ce que tu crois aux fantômes?
C'est une bonne question, ça. Je suis très bizarre, moi, tu sais. Je suis hyper cartésienne. Moi, j'étais élevée par un papa communiste, CGT cheminot.
Ouais, républicain, si j'ai bien compris.
Et ça, c'est du côté de mes grands-parents. Mmh. Et du coup, comment dire, chez moi, on bouffait plutôt du curé, quoi. Et donc, il n'y avait pas trop de place à quelconque croyance. Et en même temps, j'ai grandi dans un monde rempli d'imaginaires pour plein de raisons, parce que j'ai grandi un peu enfermée dans une sorte de prison morale et émotionnelle par rapport à tout ce que je raconte dans la pièce. Et du coup, mon échappatoire, c'était les livres et les histoires que j'écrivais ou que je me racontais. Donc aujourd'hui, je dirais que je ne sais pas si je crois aux fantômes, mais je crois à la mémoire des lieux. Je crois à ces choses qui sont entre les lignes. Je crois à des choses qui sont très physiques, en fait, et qui ont l'air d'être de la magie. Mais je crois aux vibrations, je crois aux ondes qui nous traversent. Je crois au fait qu'il existe d'autres choses que nos interfaces de langage et de communication habituelles. J'arrive à lire souvent entre les lignes.
Tu crois aux énergies?
Oui, ce que certaines appelleraient des énergies. Après, l'énergie, oui, je crois, bien sûr, enfin, je crois à des choses très concrètes, c'est-à-dire les corps physiques, électriques, à mes synapses, à mes arcs synaptiques, et au tien, et à ce que tout ça fabrique, à notre échange atomique aussi. Je ne sais pas si tu sais, mais on est composé de particules qui ne sont jamais les mêmes. On se recompose, on n'est pas fabriqué de la même matière tout le temps, jamais, jamais. Ça, j'adore ce côté-là. Pour moi, la magie, elle est là. Elle est dans cette espèce de rapport incroyable, éphémère et renouvellement permanent du vivant. En fait, je crois au vivant profondément. Et pour moi, la mort et la vie, c'est la même chose.
Mais j'ai l'impression que nos cultures, contrairement à d'autres cultures, ont perdu ce sens de la communication avec ce monde, voire de reconnaissance avec ce monde. Tu parlais des sorcières, par exemple, c'est un peu un héritage lointain. Tu arrives à mettre un mot sur ce que tu es, par exemple?
Oui, quand on me pose la question, moi je dis qu'aujourd'hui, je suis, je crois que ça s'appelle agnostique, c'est-à-dire j'ai pas de religion, mais j'ai ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire j'ai une croyance dans une organisation du vivant qui est bien au-delà de moi et de mon petit égo et du petit égo de tous les êtres humains qui ont déjà beaucoup trop d'égo, enfin on a beaucoup trop d'égo. et je crois, je fais partie de la nature, je fais partie de de cette magie de transformation cellulaire. On fait partie de tout ça et je trouve ça tellement plus joli de regarder tout ça en se mettant tout petit, en regardant l'infiniment grand, que de se mettre au centre du monde. Voilà, donc je me définis plutôt comme ça. Après, je sais, j'ai une de mes amies, par exemple, qui se définit comme médium, qui me raconte parler avec un autre monde. J'avoue que j'ai aucune... Ni jugement ni crédibilité à ça. Je sais pas trop quoi en penser. Après moi,
t'es curieuse en tout cas quoi.
Ouais, et puis moi il y a un truc qu'on me renvoie tout le temps et qui est réel. Quand je te disais le truc des sorcières, c'est pas une blague. Je vis avec ça. Je suis quelqu'un qui a une intuition, mais je crois que je suis comme ma grand-mère espagnole qui était sorcière elle-même. C'est ce truc, elle avait un sens de l'observation du vivant qui était hyper grand et donc une capacité d'écoute pas juste avec ses oreilles. Mais avec tout son épiderme. Et en fait, effectivement, j'ai un sens intuitif qui est hyper développé.
Est-ce que tu sais la prochaine question ?
Non. Tu vois ?
Alors, dans la présentation du Thiaz, on peut lire, tu l'as déjà un peu évoqué, on écrit ce qu'on joue et on joue ce qu'on écrit. Et comme ce sont des meufs qui écrivent, ça teinte les créations de Femelle Gaz. C'est le regard féministe
regard féminin.
Ouais, sur les œuvres. Donc, l'air de rien, mais l'air quand même, pour ce spectacle, tu parles du corps d'une femme, de sa vie de femme dans cette société qui la domine encore, où elle se soumet encore. Je suis partie de mes propres histoires de violence vécues. Donc, la jeunesse de l'écriture, ce sont tes propres violences, souffrances. Comment arriver à transformer en force, en ressources ces failles personnelles, ces cicatrices intimes qui correspondent aux voix perdues, en fait, qui t'enveloppent.
Comment on transforme ça, c'est ça ta question ? Avec des années de psychanalyse. Voilà. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de... Moi, je suis quelqu'un de très têtu, de très... Voilà, j'ai pas peur du travail acharné. Et donc, je l'ai appliqué à moi-même. Je me suis autonomisée dans mon soin. Voilà, beaucoup... j'ai pas commencé par la psychanalyse, j'ai commencé par de l'art thérapie, d'ailleurs. Ouais. Ça a été mon premier chemin. Ça a été de la thérapie en peinture, en couleur. En aquarelle, et puis ouais, après...
C'est difficile d'ailleurs l'art thérapie, enfin faut vraiment, enfin par difficile j'entends, parfois faut puiser en soi
Toutes les démarches thérapeutiques demandent de force et ténacité, parce qu'on se met face à nous-mêmes, et puis personne n'est parfait, donc c'est jamais très sympa de plonger dans les miroirs de nous-mêmes, on est tous notre propre monstre, hein. donc dès qu'on va regarder à l'intérieur, on se fait pas toujours...
C'est ma dernière question.
Ah, tu vois ?
Bien joué.
Ouais, des années de travail qui continuent. Hein. Je conseille à tout le monde, d'ailleurs, dans le Thiaz, on dit ça souvent avec Maëlle, mais on le pense toutes les deux très fort. Allez-y, quoi. N'hésitez pas, quoi. C'est chouette, la thérapie. Ça permet de vivre en respirant.
En fait, il faut 45 évolutions, c'est ça ?
Je sais pas, ça dépend des gens, tu sais. Il y en a, ils font des tours de manège plus courts et d'autres plus longs pour régler des trucs. On a tous des histoires tellement différentes.
Il y a quelque chose que je trouve parfois questionnant, en fait, peut-être un peu paradoxal, c'est d'arriver à révéler des choses sur soi, dire des choses de soi très, très intimes, en fait, à un public, au plus grand nombre, qui est une masse plutôt anonyme.
Presque.
Alors que c'est si difficile parfois de le nommer à un cercle privé, son cercle, je dirais, de référence, son cercle familial, alors que potentiellement, c'est les premières personnes concernées, quoi.
Ouais. Oui. Je pense que ça dépend des histoires, quoi. Moi, j'ai toujours eu la chance de m'entourer de gens qui avaient une belle capacité d'écoute. Après, quand tu parles cercle plus fermé, plus restreint, j'imagine peut-être tu parles de la famille. Voilà, moi, j'ai posé ces mots à ma famille. Et aujourd'hui, encore à 48 ans, je suis une menteuse. Donc, d'ailleurs, tu l'entends dans une des voix perdues. Et parce que c'est insupportable. C'est pas très difficile. Enfin, comment te dire ? J'ai pas trouvé ça très difficile de le proposer au public. Parce que mon écriture a une poésie, parce que c'est l'histoire que vous allez voir sur scène, c'est celle d'Esther, c'est pas celle de Sandrine Velasco. Et que les voix perdues, j'avais besoin de cette sincérité pour proposer plus tard que ça soit d'autres voix perdues qui viennent remplacer les miennes. Donc, J'avais besoin que ça soit sincère.
Oui, c'est pas ta voix, par exemple, qu'on entend dans les
Jamais.
Voix perdues.
Ce sont des comédiennes qui ont prêté leur voix à mon écriture, même s'il y a quelque chose qui a l'air de résonner après de voix en voix, parce que c'est mon écriture qui traverse tout ça, et donc mon histoire qui se traverse. Mais je crois qu'on livre de l'intime, tu sais, sur scène, et on compose nos... Je pense que toutes nos créations, elles sont teintées de nos intimités. Et c'est ça qui... Et en fait, quand c'est sincère, c'est ça qui vient résonner chez les gens.
L'intime, c'est universel.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce qui rend universel et ce qui fait que là, il y a des gens qui sont venus me voir à la fin du spectacle pour me dire des trucs qui, des fois, me paraissent surprenants parce qu'ils entendent des choses dans l'écriture auxquelles moi, je n'avais pas pensé. Mais parce que elle, ça leur appuie sur ce bouton-là. Et donc, je leur dis, bah oui, si ça te parle de ça, c'est que le spectacle parle de ça. Et là, ça veut dire que moi, j'ai réussi.
Et tu utilises le terme de autofiction? Volontairement, ouais. C'est pour mettre un peu de distance ou c'est...
Non, mais parce que j'ai dû fictionnaliser, mais de ouf, t'imagines pas, j'ai écrit 37 versions de ce texte en 2 ans et demi. y a des voix perdues qui ont été vraiment difficiles à écrire pour qu'elles soient justes.
Parce qu'on doit comprendre rapidement, en fait, la situation.
Et oui, et alors ça, que t'es dans un univers complètement barré, ultra irréel, je t'embarque vraiment dans ma petite folie, dans ma tête, quoi. Donc c'est comment rapidement je te pose une situation dans laquelle tu vas t'embarquer et te laisser embarquer tout en ne comprenant pas tout et d'accepter qu'au fur et à mesure les choses se résolvent devant toi. Donc effectivement c'est et autofiction parce que ça reste une fiction parce que l'histoire d'Esther n'est pas mon histoire, par exemple. Les voix perdues, c'est mon histoire, mais l'histoire d'Esther n'est pas mon histoire.
Tu n'es pas dans une baleine quantique, par exemple, toi.
Non. Et je n'ai pas été abandonnée. Voilà, enfin, il y a plein de trucs, quoi.
Il y a de l'introspection, on l'a compris, l'intime, c'est intrinsèquement politique. Je pense qu'effectivement, il faut être particulièrement en confiance pour se livrer. Pourtant, tu le dis toi-même, et ça ramène peut-être à des situations de genre. On m'a d'abord appris à me taire. Donc, qu'est-ce qui fait aussi que tu as pu dépasser en fait ce stade-là et reprendre la parole, ta parole ?
Eh ben, de sortir de l'endroit où on m'empêchait de parler, déjà, de m'autonomiser, de devenir libre de ce carcan. Et en fait, ça n'a pas suffi parce qu'en vrai, je pense que j'ai toujours été très bavarde, mais on a vraiment l'art de faire beaucoup de bruit en racontant pas grand chose dans ma famille. Donc, je crois que j'avais chopé le même mécanisme. Et j'ai appris à parler pour de vrai en tendant mon micro pendant des années, en écoutant les autres parler.
C'est un thème central de toute façon, l'écoute.
Ouais.
Tu dis que tu es persuadé que l'art peut et doit être vecteur de vivre ensemble, qu'on soit 12, 213 ou 13-12. Alors déjà, dédicace et clin d'œil au 13-12, voilà, pour ceux qui comprennent. Tu penses vraiment que l'art est capable de changement d'état, de possible transformation sociale ?
Indirectement, oui. En fait, à une échelle qui est toute petite, mais tu sais, c'est les grains de sable qui enrayent les grosses machines.
Alors, on va placer le saphir sur 45, la marelle. Moi, je suis sorti du spectacle.
Tu l'avais dans la tête. Hein.
C'est ouf. Toute la soirée. C'est entêtant.
Elle est merveilleuse, cette chanson.
Elle est incroyable.
C'est NASA. Elle est de... Je pense que la version que tu vas passer, c'est celle de Birds and Wire.
Oui.
Et c'est celle qui est dans le spectacle qu'on a choisi de passer. Mais moi, c'est ce qui est pareil. Une rencontre avec ce morceau très, très bizarre, c'est exactement comme avec H. Mais il s'est passé plein de choses dans la création du spectacle de cet ordre-là. Hein. C'était la rencontre avec moi, tout ça. Mais Nazaré Pereira, elle a chanté cette chanson en 1982. Dans une émission avec Michel Drucker que mes grands-parents ne rataient jamais. Et donc, c'est sûr que je l'ai vue à la télé, cette chanson. Voilà, et donc, la chanteuse d'origine s'appelle Nazaré Pereira. Elle avait une version très jolie et ça a cartonné pour les enfants. Et donc, il y a un 45 tours qui est sorti en 1982 parce que ça cartonnait dans les bacs pour les gosses, quoi. Voilà, et moi, en 82, bah, j'avais 6 ans. Et je retrouve cette chanson 42 ans plus tard. et elle fait tellement sens avec tout ce qui est raconté, même en portugais, on en parlera après la chanson. Mais elle fait tellement sens avec le spectacle.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de umbigo, cuidado, pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Te choro uma lagoa e ela que eu vou me banhar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de um bico, cuidado pra te quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Te choro uma lagoa e ela que eu vou me banhar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.